Bienvenue dans cette nouvelle immersion approfondie. Aujourd'hui, notre mission, c'est de redéfinir complètement la façon dont on perçoit le fonctionnement du monde naturel.
Et de l'action divine, en fait.
Oui, et pour accomplir cette tâche monumentale, on plonge dans une source absolument fascinante. Ce sont les notes de la session 25 du Dr John Walton sur le livre de Job.
C'est ça. L'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, c'est vraiment de sortir des idées reçues pour découvrir un univers régi par trois concepts fondamentaux. Des concepts qui, pour être tout à fait honnête, sont assez déstabilisants.
Oui, très déstabilisants.
On parle de l'ordre, du non-ordre et du désordre. Mais avant de plonger dans cette grille de lecture, il faut poser le décor.
C'est indispensable, oui. On a très souvent l'habitude de concevoir l'univers, et particulièrement la façon dont les événements s'y déroulent, comme une immense salle d'audience cosmique.
Ah, le fameux tribunal, oui.
Exactement. Il y a cette attente d'une précision absolue, presque chirurgicale, tu vois. On imagine que si l'on agit bien, hop, le marteau du juge frappe et on reçoit une bénédiction.
Tout à fait.
Et si l'on agit mal, le marteau frappe à nouveau et c'est la punition. C'est super binaire, c'est propre et c'est censé être parfaitement juste.
Bah, cette vision binaire, elle est profondément ancrée parce qu'elle est incroyablement rassurante, en fait. L'esprit humain a un besoin viscéral de voir les choses catégorisées.
Ouais, on aime quand c'est rangé.
C'est clair. On veut vivre dans un monde lisible où la cause et les faits s'alignent toujours sur une morale parfaite. Cela donne l'illusion d'un contrôle total.
Genre, si je coche toutes les cases, je suis à l'abri.
Exactement. Si les règles sont claires, on se dit qu'il suffit de les suivre à la lettre pour éviter la souffrance.
Et c'est là que le livre de Job, tel qu'il est analysé par John Walton, fait voler cette belle image d'un tribunal cosmique bien ordonné, purement et simplement en éclats.
Ça la pulvérise même.
Soudainement, on réalise que cette grille de lecture est non seulement inadéquate, mais qu'elle est fondamentalement cassée. On se retrouve face à un paysage existentiel qui est extrêmement trouble.
Très trouble, oui.
Et c'est précisément ce chaos conceptuel que nous allons décortiquer aujourd'hui.
Bon, décortiquons un peu tout ça. Pour que tout cela ait du sens, il faut d'abord remonter au tout début.
Au commencement du système cosmique, oui.
Donc, on parle inévitablement du récit de la Genèse.
Voilà, le document source souligne une chose énorme. Essentiel ici. Il est vraiment impératif de redéfinir ce qu'est réellement la notion de création.
C'est le point de départ de tout le raisonnement de Walton.
Parce que, dans l'esprit moderne, on a tendance à penser que créer, c'est simplement fabriquer de la matière à partir de rien. On imagine une usine cosmique qui produit des atomes.
Ouais, c'est une erreur de perspective très courante. Ce qui est fascinant ici, c'est que dans le contexte du Proche-Orient ancien, la création n'était pas prioritairement une question de matérialité.
Donc, l'existence de la matière, le côté physique, c'était pas le cœur du sujet.
Pas du tout. L'acte de création, le cœur même de ce processus, selon l'analyse rigoureuse de Walton, c'était l'organisation du cosmos pour lui donner une fonction.
Une fonction. D'accord.
Oui, c'est ce qu'on appelle l'instauration de l'ordre. Le texte ne décrit pas tant l'apparition magique de la matière que la mise en place d'un système hautement structuré.
Un peu comme si on attribuait des rôles à des acteurs dans une pièce de théâtre, en fait.
C'est une excellente analogie. Chaque élément est placé sous contrôle pour servir un but bien précis.
Cette idée d'assigner une fonction, ça change complètement la donne. Le document mentionne d'ailleurs que le récit originel de Genèse 1 commence par une situation de non-ordre.
Exactement. Les matières premières sont déjà là, mais elles sont en attente d'un rôle.
Un source propose une analogie très parlante à ce sujet, je trouve. L'acte de création, c'est comme emménager dans une nouvelle maison. Les murs sont construits, les meubles sont à l'intérieur, mais tout est encore dans des cartons.
Ah oui, l'image de la maison en plein emménagement.
C'est ça. Et le point crucial, c'est que ces cartons empilés au milieu du salon, ce n'est pas mauvais en soi.
Non, absolument pas.
Ce n'est pas une entité maléfique qui cherche à détruire la maison. C'est simplement du non-ordre. Ça attend gentiment d'être déballé, rangé et d'avoir une utilité concrète pour rendre la maison habitable.
Cette image des cartons à déballer illustre parfaitement le concept, oui. Le non-ordre n'est pas le mal absolu. C'est juste un potentiel non réalisé, un travail en cours, en fait.
Et ça, dans les textes anciens, c'était vu comment ?
Eh bien, la mer tumultueuse, par exemple, ou même l'extérieur du jardin d'Éden, étaient considérés comme des espaces de non-ordre.
Ils n'étaient pas aussi organisés que le jardin lui-même.
Voilà. Ils n'avaient pas encore atteint le même niveau d'organisation, de sécurité et de fonction que l'intérieur du jardin. L'ordre initial instauré lors de la création n'a donc pas abouti à un ordre total.
ce n'était pas achevé dès la première seconde.
Exactement. Le cosmos originel contenait encore de vastes étendues de non-ordre. Et c'est là que réside une des clés de compréhension fondamentale de la pensée de Walton.
À savoir que ce n'était pas un accident.
C'est ça. Ce n'était pas une erreur de conception ou un oubli. C'était un état voulu et totalement délibéré.
Mais attends, c'est justement là que je veux bousculer un peu cette idée. Parce que ça va à l'encontre de toute notre logique habituelle.
Je t'écoute.
Si on postule l'existence d'un créateur tout-puissant, pourquoi avoir laissé des cartons à déballer? C'est contre-intuitif, non?
Ça peut le paraître, avec nos critères actuels, oui.
Pourquoi ne pas avoir livré un monde totalement ordonné, clé en main, parfaitement organisé dès le premier instant? On pourrait très facilement percevoir ce travail inachevé comme, une forme d'incapacité, ou du moins un manque d'efficacité.
C'est une réaction très naturelle, en fait, lorsqu'on projette nos attentes modernes d'efficacité sur un texte ancien.
C'est vrai qu'on aime quand tout va vite aujourd'hui.
Tout à fait. Mais Walton précise bien que la présence du non-ordre n'est en aucun cas le signe d'un échec ou d'une limite. Ce n'est pas un manque de puissance. C'est au contraire un choix extrêmement délibéré.
Un choix fondé sur quoi, du coup?
Sur un concept supérieur, la sagesse. L'objectif fondamental de ce processus graduel d'ordonnancement, eh bien, c'était d'inclure l'humanité.
Ah d'accord.
Les humains ont été créés pour être des vice-régents, autrement dit des partenaires. Ils sont invités à travailler activement aux côtés du divin pour poursuivre ce processus d'ordonnancement du monde.
Waouh, c'est une nuance incroyable. Donc, au lieu de remettre à l'humanité un chef-d'œuvre achevé qu'il suffirait de regarder sans y toucher, comme sous une cloche de verre, le Créateur a en quelque sorte tendu un pinceau aux humains.
Exactement.
Pour qu'ils participent à la fresque. Le monde n'était pas un musée parfait, c'était plutôt un atelier collaboratif.
L'image du pinceau est super juste pour exprimer cette idée de co-création fonctionnelle. Ça veut dire que même dans un état idéal originel, avant toute corruption morale, les humains vivaient dans un monde caractérisé par deux choses.
L'ordre et le non-ordre.
Oui, un ordre magnifique et structuré d'un côté, et de l'autre, un non-ordre persistant qui nécessitait leur intervention. Le travail d'ordonnancement était le but même de l'existence humaine.
Ce qui amène une question inévitable, par contre. Si l'ordre et le non-ordre cohabitent naturellement, d'où vient ce qu'on appelle communément le mal?
C'est la question que tout le monde se pose.
Parce que les cartons empilés dans le salon, ce n'est pas du tout la même chose qu'un incendie qui ravage la maison.
Et c'est là qu'intervient le troisième terme indispensable à cette grille de lecture, le désordre.
D'accord, le désordre.
Le désordre fait son apparition plus tard dans le récit, spécifiquement dans Genèse 3. Contrairement au non-ordre, qui est neutre, le désordre représente ce qui est intrinsèquement mauvais, destructeur.
C'est une rébellion par rapport à la fonction prévue, c'est ça?
Exactement. Et selon l'analyse de Walton, ce désordre est largement introduit par les humains eux-mêmes, par leur refus de jouer leur rôle de vice-régent selon la sagesse initiale.
Donc pour résumer un peu l'état actuel du monde selon cette pensée, on évolue dans un système qui conserve un ordre établi dispensable à la vie.
Oui.
Qui contient encore une grande quantité de non-ordre naturel non traité.
Et qui, en plus de tout ça, est lourdement dominé par le désordre moral généré par l'humanité.
C'est exactement la complexité de notre réalité, oui.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si le monde actuel est ce mélange complexe d'ordre, de non-ordre sauvage et de désordre humain, comment est-ce qu'on est censé interpréter ce qui nous arrive au quotidien?
C'est tout le problème abordé par le livre de Job. Quand on traverse une épreuve terrible, comment savoir d'où elle vient? C'est exactement sur ce point que Job et ses amis se sont magistralement plantés, non?
Totalement. Ils ont cherché à lire un monde complexe avec des lunettes beaucoup trop simplistes.
Leur lunette était non seulement simpliste, mais elle reposait sur une énorme erreur, non?
Un postulat complètement erroné, oui. Ce que les théologiens, et Walton en particulier, appellent le principe de rétribution.
Le principe de rétribution, qu'est-ce que c'est concrètement?
Eh bien, Job et ses amis, même s'ils n'étaient pas d'accord sur l'innocence de Job, ils partageaient tous cette même croyance fondamentale. Ils pensaient que la justice divine était infusée directement et mécaniquement dans les rouages du monde naturel.
Mmh. D'accord.
Pour eux, le monde opérait comme un miroir parfait, reflétant sans aucune distorsion les attributs moraux de son créateur.
Ouais, c'est ce qu'on pourrait appeler le mythe du grand distributeur automatique de karma, en fait.
Ah, c'est une excellente façon de le formuler.
C'est une vision tellement tentante. On insère la pièce d'une bonne action, on appuie sur le bouton, et la mécanique cosmique nous délivre une météo clémente, des récoltes abondantes et une santé de fer.
C'est exactement comme ça qu'il voyait les choses.
Et logiquement, si la machine nous délivre une maladie grave ou une tempête qui détruit notre toit, c'est obligatoirement parce qu'on a inséré la pièce d'une mauvaise action au préalable.
La logique est implacable dans ce système, oui.
Les amis de Job voyaient sa souffrance extrême, ils ont donc appliqué l'équation mathématique. Souffrance égale punition, punition implique culpabilité, donc Job a péché. Fin de l'histoire.
Si on relie cela à une perspective plus large, cette logique implacable cache en réalité une immense fragilité psychologique de la part des amis de Job.
Ah oui, bien sûr.
De quelle façon ?
Eh bien, s'ils admettaient que Job était innocent tout en souffrant autant, ça signifiait que leur propre droiture morale ne les protégeait de rien.
Ah, je vois. C'est terrifiant pour eux.
Leur insistance à accuser Job était un pur mécanisme de défense. Ça servait à préserver leur vision d'un univers prévisible. Cependant, la thèse centrale de Walton est formelle là-dessus.
Cette vision du distributeur automatique est tout simplement fausse, c'est ça ?
Absolument fausse. Le fonctionnement régulier et quotidien d'un monde déchu, un monde qui contient intrinsèquement du non-ordre naturel, ne reflète pas naturellement et automatiquement le caractère moral de son créateur à chaque événement.
Croire que la nature agit comme un juge moral infaillible, c'est ignorer complètement la réalité d'un monde qui n'est pas, je rappelle, totalement ordonné.
Mais il faut admettre que c'est profondément déstabilisant.
C'est le mot, oui. Dire que la nature est fondamentalement aveugle à notre comportement moral au quotidien, que les rouages de l'univers ne s'arrêtent pas pour applaudir nos bonnes œuvres ou pour punir instantanément nos erreurs, ça enlève un filet de sécurité psychologique énorme.
C'est vertigineux, oui. Pour quiconque essaye de donner un sens rationnel à des malheurs personnels inexplicables, découvrir que l'univers ne fonctionne pas selon une équation morale stricte, c'est un peu comme perdre le sol sous ses pieds.
La perte de ce filet de sécurité est effectivement vertigineuse, mais le livre de Job tente précisément d'apporter ce correctif, douloureux certes, mais nécessaire.
Il faut recadrer les attentes.
C'est ça. S'attendre à une justice mécanique de la part du monde naturel, c'est imposer au cosmos une règle de fonctionnement qui n'a jamais été la sienne depuis le commencement.
Et cela nous amène, inévitablement, à reconsidérer de fond en comble la façon dont on catégorise les événements dramatiques, en particulier les catastrophes naturelles.
Absolument.
Justement, si la nature ne récompense ni ne punit automatiquement, comment est-ce qu'on est censé comprendre une tragédie naturelle ? Car là, on parle de phénomènes d'une violence inouïe.
Oui, des événements à grande échelle.
Les notes de Walton abordent de front la question des catastrophes naturelles et des tragédies biologiques. L'exemple donné dans la source est particulièrement frappant pour illustrer l'indifférence morale de la nature. Il souligne qu'il pleut même dans des endroits arides où personne ne vit.
Cet argument de la pluie dans le désert est l'un des plus puissants tirés du texte antique.
Pourquoi spécifiquement cet argument ?
Parce que dans une société agraire, la pluie était perçue comme la bénédiction divine ultime, une récompense directe pour la fidélité de la nation.
D'accord, l'eau, c'est la vie, la récompense.
Or, le texte souligne avec force que la pluie tombe aussi sur des terres inhabitées. Si la pluie était uniquement un instrument de bénédiction morale ou de punition, pourquoi gaspiller cette précieuse ressource sur du sable vide d'humain ?
Bah oui, ça n'aurait aucun sens logique.
Ça prouve de manière indéniable que les éléments naturels ont leur propre fonctionnement, des cycles systémiques qui sont indépendants de la présence humaine ou de la moralité humaine.
Donc le système tourne de lui-même en quelque sorte.
Voilà. Sur cette base, Walton classe les tsunamis, les ouragans, les sécheresses dans la catégorie du non-ordre.
Et pas du désordre moral.
Non, du non-ordre. Et il va plus loin. Il applique ce concept à un niveau microscopique. Les mutations biologiques qui causent des maladies graves appartiennent aussi à ce non-ordre.
C'est un point sur lequel il faut vraiment insister. Donc, une cellule qui mute de manière anarchique pour former une tumeur, ce n'est pas un acte moral maléfique.
Non.
Ce n'est pas le mal avec un grand M visant une personne spécifique pour la détruire en punition de quelque chose.
Selon cette grille d'analyse, non. Ce sont des manifestations physiques du non-ordre. Des processus biologiques qui échappent à un fonctionnement ordonné.
Ça change tout de voir les choses comme ça.
Ils ne sont pas intrinsèquement mauvais sur le plan moral, ni animés par une volonté destructrice consciente. Même si, bien sûr, leurs conséquences pour l'être humain sont tragiques et causent une immense souffrance.
C'est la distinction vitale entre un événement physiquement dévastateur et un événement moralement punitif, en fait.
Exactement. C'est le cœur du propos.
Mais là, on touche à un paradoxe qu'il faut absolument creuser. L'intuition humaine résiste fortement à cette idée. On a très souvent cette image en tête, un peu comme dans un jeu vidéo de simulation de ville, genre SimCity.
Ah oui, l'image du joueur tout-puissant.
Ouais. On imagine une entité divine, omnisciente, tenant une souris d'ordinateur ou une manette, zoomant sur la carte du monde et ciblant des pixels très précis. On se dit que le créateur a décidé d'appuyer sur le bouton « tornade » exactement sur cette maison-ci, tout en épargnant la maison voisine. Et face à cela, le cerveau humain se révolte.
C'est compréhensible. On se demande pourquoi.
Si l'entité contrôle chaque pixel, pourquoi détruire la maison de cette famille spécifique qui n'a rien fait de mal?
C'est ici que l'analyse de Walton déconstruit l'une de nos plus grandes idées reçues, en apportant une nuance vitale. Il démonte pièce par pièce ce que l'on pourrait appeler le mythe de la télécommande cosmique.
La télécommande cosmique, j'adore l'expression.
Dans l'esprit du texte biblique, les forces de la nature ne sont pas volitives.
C'est-à-dire?
Elles n'ont pas de conscience ou de volonté propre. Et elles ne sont surtout pas des agents moraux. Le divin ne fait pas de micromanagement avec un joystick pour diriger consciemment chaque éclair vers un arbre spécifique.
Ni pour orchestrer la trajectoire microscopique de chaque cellule mutante dans un organisme, du coup.
Non plus. Ce niveau de gestion granulaire, ce n'est tout simplement pas la façon dont le système a été mis en place.
Mais attends, la source précise tout de même une chose très importante. Certaines de ces forces aveugles de non-ordre peuvent avoir un effet extrêmement positif sur l'écosystème global à long terme.
C'est vrai, oui.
On sait par exemple que les feux de forêt naturelle régénèrent les sols, ou que les mouvements des plaques tectoniques régulent la température de la Terre. Ces processus sont vitaux pour l'ensemble du système.
Tout à fait.
Tout en étant totalement dévastateur au niveau individuel si l'on se trouve, malheureusement, au mauvais endroit, au mauvais moment. Dès lors, comment concilier cette utilité systémique aveugle avec l'idée d'un contrôle divin?
La clé réside dans la malléabilité du non-ordre. Bien que ces forces soient aveugles, elles restent soumises à la volonté globale du Créateur.
Elles ne sont pas hors de contrôle, alors?
Non. Walton explique que le divin peut se servir du non-ordre pour atteindre des objectifs qui s'inscrivent dans un grand dessein ordonné. Il n'est pas prisonnier du système qu'il a créé.
Donc il pourrait intervenir s'il le voulait.
Il pourrait, de manière théorique et ponctuelle, utiliser une tempête spécifique ou un événement naturel comme un acte de jugement ou de punition. C'est dans le domaine du possible, et le texte biblique contient des récits de ce type.
D'accord.
Mais la subtilité monumentale de l'argument de Walton est la suivante. De notre point de vue humain, limité et terrestre, nous ne pouvons jamais, au grand jamais, savoir avec une certitude absolue quand un événement est une intervention ponctuelle et quand il s'agit du simple fonctionnement du système.
Waouh ! C'est véritablement vertigineux.
Ça nous remet à notre place, oui.
Cela revient à dire qu'on ne peut jamais regarder un journal télévisé et affirmer avec autorité « cette tempête spécifique qui a rasé cette côte est un jugement ciblé ».
Impossible de l'affirmer.
Toute personne prétendant lire les intentions divines dans la météo s'arroge un savoir qu'elle ne possède pas en fin de compte.
C'est l'essence même de l'orgueil que le livre de Job dénonce. Les forces de la nature ne fonctionnent pas comme des instruments de jugement automatisés qui se déclenchent à chaque occurrence.
Elles font juste partie du cadre.
Elles agissent dans le cadre qui était fixé, mais elles ne sont pas mécaniques pour autant. Il n'y a pas de programmation robotique sous-jacente qui relierait de façon invisible mais certaine chaque événement naturel destructeur à une faute humaine.
Le cosmos n'est pas un système de récompense et de punition.
Exactement.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si l'univers n'est pas géré par ce micromanagement judiciaire permanent, si le marteau du juge ne frappe pas à chaque action, où se trouve le contrôle divin face à des événements aléatoires, tragiques et imprévisibles?
C'est la grande question de Job.
La source fait un parallèle conceptuel avec la gravité, que je trouve absolument brillant pour illustrer ce point.
Oui, l'exemple de la gravité est très éclairant.
Prenons un exemple simple. Si quelqu'un trébuche dans les escaliers, tombe lourdement et se casse un os, personne ne va se lever en hurlant vers le ciel. Personne ne va dire « Pourquoi la gravité a-t-elle fonctionné sur moi aujourd'hui? Quel péché ai-je commis pour que la gravité m'attire vers le bas ?»
Ce serait absurde.
Totalement. On accepte simplement que la gravité est une loi inhérente au système, une force neutre qui maintient l'ordre global, mais qui, fatalement, peut faire mal localement.
Cela soulève une question importante sur notre perception asymétrique du malheur. Walton souligne que, de la même manière qu'aucun individu ne remet en cause le caractère moral de la gravité lors d'une chute accidentelle, on ne devrait pas se demander pourquoi, sur le plan strictement moral, une personne développe une maladie.
Comme un cancer ou un diabète, par exemple.
Oui, ou une pathologie génétique. On ne devrait pas chercher une raison judiciaire expliquant pourquoi elle est touchée et pas son voisin.
Mais c'est une affirmation qui bouscule tout. Parce que le « pourquoi moi » ou le « pourquoi elle », c'est la toute première question que quiconque se pose dans une salle d'attente d'hôpital. C'est le réflexe humain par excellence, tu vois?
Bien sûr. Le réflexe est naturel car le besoin de trouver du sens dans les détails précis de l'événement est extrêmement tenace. L'esprit cherche désespérément un coupable ou une cause morale pour apaiser son angoisse face à l'aléatoire.
C'est un moyen de reprendre le contrôle, d'une certaine façon.
Tout à fait. Mais la division cellulaire anarchique ou la mutation imprévue d'un gène, cela fait pleinement partie du non-ordre inhérent au système biologique actuel.
Et donc, où se trouve la sagesse divine là-dedans ?
Selon cette grille de lecture, le contrôle et la sagesse divine résident dans la façon dont le système cosmique tout entier a été conçu, équilibré et structuré de manière globale, et non dans la micro-gestion de chaque expression spécifique au sein de ce système.
La sagesse s'observe à l'échelle macro, en quelque sorte.
C'est ça. La sagesse supérieure ne se lit pas dans la trajectoire de chaque goutte de pluie individuelle, ni dans l'issue de chaque division cellulaire. Elle se lit dans la mise en place et le maintien du monde lui-même, un monde capable d'abriter la vie malgré sa fragilité.
Je vois. Comprendre la nature du contrôle, c'est donc accepter de regarder l'architecture du système cosmique sans exiger une explication personnalisée à chaque expérience individuelle.
C'est tout le cheminement que Job doit faire.
Ce parcours nous amène à la conclusion la plus percutante et peut-être la plus contre-intuitive de toute cette session d'études. La justice n'est pas la clé de voûte du cosmos.
Non, elle ne l'est pas.
Il faut vraiment s'arrêter là-dessus, car c'est le cœur nucléaire du problème de Job et de notre propre incompréhension. La justice n'est pas le pilier central qui maintient l'univers physique et spirituel en place.
Ça fait mal à entendre pour nous, humains assoiffés de justice.
Oui, mais si on y réfléchit de manière logique, si une justice stricte, immédiate, parfaite et implacable était réellement le principe directeur au cœur de toute chose, dès la première erreur, l'univers aurait dû procéder à une annihilation instantanée.
Dès le premier acte de désordre introduit par l'humanité, oui, pour rétablir l'équilibre parfait.
Les créatures faillibles et déchues que nous sommes n'existeraient tout simplement pas. On ne survivrait pas une seule seconde dans un système cosmique basé purement et exclusivement sur une justice punitive immédiate.
C'est la résolution magistrale et inattendue que le livre de Job propose et qui est si bien mise en lumière par Walton.
Le monde ne tourne pas grâce à la justice birome.
Le monde ne fonctionne pas et ne subsiste pas par une justice implacable. Il fonctionne par une sagesse globale, vaste et insondable.
Et c'est cette sagesse qui tolère le non-ordre.
C'est précisément cette sagesse qui maintient l'univers en place, qui tolère la présence continuelle et parfois douloureuse du non-ordre, et qui retient l'application d'une justice destructrice.
Dans quel but, finalement ?
Un parfait actuel. Le créateur possède évidemment la capacité d'interférer, la puissance requise pour faire du micromanagement continu s'il le souhaitait.
Mais il ne le fait pas systématiquement.
Non, ce n'est pas la norme établie de son interaction avec le monde. Dans son état présent, le monde ne peut abriter la vie et l'humanité que par cette sagesse systémique tolérante, et non par une évaluation judiciaire constante qui ne laisserait aucune place à l'erreur ou à la contingence.
C'est un bouleversement complet de perspective. Franchement, si on prend un peu de recul sur cette analyse monumentale de Walton, on réalise à quel point ce changement de paradigme peut avoir un impact incroyablement libérateur pour quiconque écoute cette réflexion.
C'est vraiment l'application concrète et salvatrice de cette connaissance. Parvenir à comprendre l'univers à travers ce prisme complexe de l'ordre du non-ordre naturel et du désordre moral, c'est avoir l'opportunité de se libérer d'un poids immense.
Lequel ?
Cette grille de lecture permet de retirer ce fardeau psychologique souvent insupportable qui consiste à chercher de façon frénétique une punition divine, une faute cachée ou une faille morale personnelle derrière chaque maladie diagnostiquée, chaque tempête essuyée ou chaque difficulté aléatoire.
Oui, on arrête de se flageller pour tout ce qui nous tombe dessus.
Voilà. Reconnaître que le non-ordre fait partie intégrante du fonctionnement systémique actuel, c'est comprendre qu'une tragédie naturelle ou biologique n'est pas la condamnation de l'individu par les cieux.
On peut enfin arrêter de chercher un message moral codé dans un coup de foudre ou dans l'évolution d'un bilan médical. Mais en même temps, c'est une vision du monde qui, paradoxalement, exige beaucoup de maturité.
Énormément de maturité.
Elle demande d'accepter le mystère profond d'une sagesse systémique qui nous dépasse, tout en renonçant à exiger des réponses individuelles, des « pourquoi moi » à chaque drame personnel.
Et pour clore la boucle, c'est très exactement ce niveau de maturité et d'acceptation que Job a fini par atteindre à la fin de son épreuve.
Il n'a jamais eu ses réponses d'ailleurs.
Dans le récit, Job n'a jamais obtenu la moindre explication sur le pourquoi précis de ses souffrances atroces. Le texte ne lui donne jamais de justification détaillée.
Mais il a eu autre chose.
Oui, il a eu droit à une révélation panoramique sur le comment. Il a vu comment le monde est structuré de manière complexe par la sagesse divine, une architecture bien plus vaste et nuancée que sa propre compréhension étroite de la justice rétributive.
Ce qui nous amène à la fin de cette exploration exigeante. Et pour terminer, il est intéressant de laisser planer une réflexion qui prolonge directement tout ce que nous venons de déconstruire.
Une question pour prolonger la réflexion, oui.
Si la sagesse divine réside effectivement dans la conception magistrale de ce grand système cosmique plutôt que dans la micro-gestion moralisée de chaque événement ponctuel, comment cela devrait-il transformer la façon dont l'être humain formule ses espoirs, ses attentes ou même ses prières ? Surtout lorsqu'il se retrouve personnellement et douloureusement confronté aux forces aveugles du non-ordre, que ce soit une maladie imprévisible ou une catastrophe naturelle dévastatrice.
C'est toute la question de notre posture face à l'incontrôlable.
Exactement. Et c'est sur cette question vertigineuse qui redessine les contours de la spiritualité face à l'incontrôlable que se clôture notre immersion d'aujourd'hui.